Bonsoir. 30 juin 2015, la République démocratique du Congo a commémoré l'accession à son indépendance. 55 ans après, quel bilan dressé sur le plan politique et socio-économique? Nous en parlons avec Valentin Moubaké, le cadre de l'IDPS et conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. Bonsoir, monsieur Valentin Moubaké.
Bonsoir.
André-Alain Atundu, communicateur de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR en sigle. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur André-Alain Atundu.
Bonsoir.
Et professeur Emmanuel Kabongo, il est analyste et professeur en philosophie politique à l'Université pédagogique nationale UPEN. Il va nous rejoindre. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Le mardi 30 juin 2015, la RDC a commémoré le 55e anniversaire de son accession à l'indépendance. 55 ans après, le bilan qu'adresse le professeur Stéphane Nzita Nzita est mitigé. Selon le recteur de l'Université internationale chrétienne de Kinshasa, il y a beaucoup d'avancées et beaucoup de défis en 55 ans d'indépendance. Il est dit au micro de Berry Franklin Luchaka.
Sur le point de vue politique, je pense que la RDC a fait des avancées et des reculs. Des avancées parce que le Congo n'est pas divisé. Malgré tout ce qui est arrivé, c'est une avancée réelle. Et finalement, le Congo maintenant est en train de chercher à compléter son cycle électoral. Nous en avons eu en 2006 et en 2011. Certainement pas parfait, mais du moins, on a eu les élections et nous sommes en train de nous battre maintenant pour que nous puissions avoir à compléter le cycle électoral qui sera d'ailleurs le test réel de ces avancées-là. Mais je dois aussi dire que malgré les avancées, si la démocratie est la force de la loi, il ne faut pas que la loi de la force, qui est la tyrannie, règne. Donc, c'est là où nous sommes en train de faire les tout derniers virages à ce que tout le monde soit égal devant la loi et qu'on respecte la loi et de surcroît la constitution qui est la mère des lois. Et le pays a quand même eu à résoudre des problèmes avec l'éducation, on a eu des universités, on a eu des écoles, tout ça. Mais on a beaucoup reculé parce que quand le pays était indépendant en 60, nos pères ont dit que même l'hymne national était debout congolais. Et finalement, en 2014, on découvre que le pays est finalement debout. Donc, quelque part, on était debout, puis on nous a mis assis et on a beaucoup reculé.
Valentin Moubaké, je rappelle que vous êtes cadre de l'UDPS et conseiller politique d'Étienne Tshisekedi. La RDC vient de commémorer ses 55 ans d'indépendance. D'abord, un mot par rapport à la commémoration de cet événement.
C'est un événement grandiose pour un pays, accéder à la souveraineté internationale. Je pense que de mémoire de pays, il n'y a jamais eu de fête à commémorer plus que celle-là, parce que celle-là traduit une libération, un recouvrement de sa dignité d'homme. Et vous savez que pour nous, UDPS, nous disons le peuple d'abord, l'homme d'abord. Ça veut dire qu'il n'y a aucune action qui puisse être entreprise, quel que soit le secteur dans lequel on est, quelle que soit la qualité de l'acteur, rien ne peut être entrepris sans mettre l'homme au cœur de ce qui est fait. Mais nous regrettons quand même, et ce n'est pas la première fois, que depuis que l'AFDL est dans ce pays, cette fête-là est commémorée par des défilés militaires. Alors nous en tout cas, l'UDPS, nous n'avons jamais compris pourquoi. Un défilé militaire, l'année passée c'était la même chose, les années avant c'était la même chose.
Et à l'époque du maréchal, quand ça s'est commémoré comment?
Eh bien, moi je ne veux pas prendre maréchal comme un exemple. Je prends ceux qui nous disent qu'il constitue un exemple. Nous avions décrié le maréchal. On nous dit que nous avons fait des avancées. Le professeur vient même de dire nous avons fait des avancées et des reculs. Alors je ne sais pas, est-ce qu'on a fait deux pas en avant, trois pas en arrière, ou un pas en avant, Deux pas en arrière, je ne sais pas.
Mais c'est Mbaki, prenons la période de 60-65, le pays accède à son indépendance le 30 juin 60, et cela suscite beaucoup d'espoir, mais un espoir éphémère parce que quelques jours après, c'est la mutinerie au sein de la force publique, et le 11 juillet, c'est la proclamation de l'indépendance du Katanga, et c'est la désillusion totale. Certains historiens estiment que cela est la conséquence d'une certaine politique néocolonialiste que voulait imposer la Belgique à la RDC. Cela peut être dit à quoi cette situation-là?
Mais c'est celle-là la raison, vous venez de l'évoquer. Il faut savoir qu'en 1960, nous n'avions pas 5 universitaires à l'époque. Et donc, c'était des patriarches, des pionniers de l'indépendance, comme nous les appelons aujourd'hui, qui ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Nous, on n'a jamais condamné les actes posés par ces pionniers, même si par-ci, par-là, on disait qu'il y a eu de la précipitation, certains parmi eux étaient impulsifs, et j'en passe, cela n'explique pas, le comportement de la Belgique, et pas seulement la Belgique, de l'Occident, vis-à-vis du Congo. Rappelez-vous que le Congo accédait à l'indépendance, mais l'arrêt brutal de cette accession-là par l'assassinat de Lumumba, qui a suivi, j'allais dire, 3 jours après, nous accédons à l'indépendance.
Le 30 juin.
Le 4 juillet, déjà la nuit du 3 juillet, la mutinerie, les Belges atterrissaient, les commandos belges. Ça veut dire que Lumumba n'a même pas dirigé ce Congo pendant une semaine. Et cela, donc, c'est la responsabilité de la Belgique et tous ceux qui l'ont soutenu. Le Congo de Mobutu a soulevé le contentieux à l'époque. Je crois que nous, on n'est pas là pour soulever un contentieux, mais nous sommes là pour la relecture de l'histoire de notre pays. Nous avons un devoir de mémoire et, comme quelqu'un dirait, on s'étonne qu'en Afrique centrale, ce sont les ex-colonies belges qui constituent le trou noir en Afrique centrale. J'espère que c'est une pure coïncidence.
Une simple coïncidence, ça n'a pas été voulu?
Non, je dis, les pays ex-colonies belges, en Afrique centrale, c'est là qu'il y a tous les malheurs des peuples qui habitent cette partie qu'on appelle des grands lacs africains. J'espère que ce n'est pas une coïncidence.
Cette période est aussi marquée par l'émergence d'un groupe qu'on appelle le groupe des Mbinza. C'est un groupe qui a marqué pendant longtemps l'histoire de ces pays. Et l'émergence de ces groupes est-elle un fait des hasards ou c'est une réaction à un phénomène donné?
Mais vous savez que le Congo, faut-il le rappeler, depuis 1885, la conférence de Berlin, le Congo était considéré comme un réservoir de matières premières. Pas pour la Belgique. La Belgique était trop petite pour avaler le Congo, pour broyer le Congo, pour l'Occident. Et donc, il y avait quelques acteurs occidentaux, en tête desquels la Belgique, et d'autres se cachaient derrière la Belgique, mais il y avait aussi des marionnettes à l'intérieur du Congo, ceux que nous appelons, nous, à l'UDPS aujourd'hui, et qui continuent aujourd'hui au Congo, des capitaines médaillés. Donc, il suffisait que l'homme blanc vous invite à prendre une fourchette et une cuillère pour manger à table, et vous croyez évoluer, donc plus important que vos concitoyens. Eh bien, nous avons aujourd'hui encore des marionnettes, des capitaines médaillés, qui sont dictés par l'extérieur pour mettre le Congo dans l'état où il est. En fait, nous avons donc un problème au Congo double. C'est celui d'un modèle politique. Depuis l'assassinat de Lumumba jusqu'à aujourd'hui, le Congo n'a jamais eu un modèle politique propice à son développement politique. Et quand vous n'avez pas de vision de modèle politique, donc, vous ne pouvez pas avoir un modèle économique qui vous soit favorable, et c'est la situation du Congo aujourd'hui. Ce n'est pas l'affaire de groupe d'Mbinza, ils sont morts d'ailleurs tous, depuis et aujourd'hui. Les malheurs que nous avons aujourd'hui, la situation que nous vivons aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de groupe d'Mbinza, c'est une affaire de capitaine médaillé qui s'adonne à ce jeu-là de marionnettes, et les ficelles sont tirées par l'Occident, jusqu'aujourd'hui.
Alors, face à ces contextes difficiles, parce que vous avez parlé de l'homme, n'est-ce pas, qui doit être mis au centre de tout. Et comment réagit l'homme politique congolais à ce moment-là? Il n'y avait pas eu des tentatives, n'est-ce pas, de sortir le pays de ces chaos?
Mais vous savez que ces braves pionniers n'ont pas eu le temps d'intérioriser les enjeux qui les attendaient. Ils n'ont pas eu le temps. Vous avez un Premier ministre qui est posté à Kisangani, autodidacte, qui, tant bien que mal, s'informe à travers les journaux qui lui passent sous la main de l'évolution du monde. Mais le monde, à l'époque, nous sommes en pleine guerre froide. Nous sommes en 1960. Quand Khrouchtchev va aux Nations Unies, il sort son soulier, il tape sur la table. Vous voyez dans quelle ambiance on était à l'époque. Eh bien, c'est cette période-là où nos braves pionniers arrachent ce gros morceau, ce gros bistec à l'Occident. Mais l'Occident ne pouvait pas l'entendre de cette oreille. Et donc, il faut placer ces pionniers dans ce contexte-là. Eux sont excusables. Mais nous ne sommes pas excusables.
Merci André Alain-Tindou, communicateur de la majorité présidentielle et président du parti politique Convention pour la démocratie et la République CDR en sigle. Un mot par rapport à la commémoration de ce 55e anniversaire de l'indépendance de la RDC.
Merci. La commémoration de l'anniversaire d'un pays, d'un État, est toujours un moment profond de réminiscence des conditions dans lesquelles nous avons pu arracher cette indépendance. Une revue chronologique des péripéties par lesquelles nous sommes passés et finalement des perspectives d'avenir en fonction des éléments en présence, des acteurs en présence et de l'environnement. Lorsque nous voyons, nous faisons cette évaluation, nous pouvons remarquer que, un, malgré tout, l'intégrité territoriale et la défense de la patrie ont toujours constitué la préoccupation majeure de tous les chefs d'État et de toutes les classes politiques qui se sont succédées. Et malgré les convoitises et les visées machiavéliques de l'environnement, eh bien, nous sommes restés debout. Même aujourd'hui, nous sommes debout. Deuxièmement, il faut remarquer, M. Moubaki l'a dit, en 60, il n'y avait pas plus de 5 universitaires. Donc, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a une formation exponentielle.
Donc, comme il a dit, les pionniers de l'indépendance sont excusables.
Oh, je ne sais pas. Parce que ce n'est pas l'intelligence qui nous a fait obtenir l'indépendance, mais c'est la sagesse. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas juge de l'histoire. Je ne me permets pas. Bon, donc, aujourd'hui, il faut remarquer quand même que 55 ans après, il y a eu une formation exponentielle des cadres dans tous les domaines, répandue dans le monde entier. Et donc, ça, c'est un élément important. Il y a l'implication des Congolais en tout. Aujourd'hui, le Congolais parle sans complexe de son pays dans tous les domaines, sécurité, justice, liberté, pression internationale, etc. C'est une grande émancipation.
Voilà, mais M. Moubaki dit qu'il se pose un problème de modèle politique aujourd'hui. Modèle politique.
Mais je suis en train de... Le modèle politique, c'est quoi? C'est une réponse à une situation donnée, à un contexte donné. Le modèle politique de 1960, eh bien, ça ne pouvait pas... disons, en réalité, comprendre toutes les facettes de la vie politique du Congo, de toutes les réalités du Congo. Parce que les pionniers de l'indépendance, c'était des reclus à l'intérieur. Ils n'avaient pas une vision déjà globale de l'ensemble du pays. Ils n'avaient pas évidemment une vision globale du monde. Et donc, ce modèle-là était un modèle réduit, appelé à s'ouvrir. Aujourd'hui, le modèle que les uns et les autres proposent, ce sont des modèles beaucoup plus ouverts.
Voilà, nous sommes entre 65 et 97, donc la Deuxième République. Mobutu accède au pouvoir le 24 novembre 65 et il impose une politique de terreur en éliminant, n'est-ce pas, ses adversaires politiques. Et comment vous expliquez le fait que Mobutu affiche une attitude qui consiste, n'est-ce pas, à ne pas vouloir s'inscrire dans le processus démocratique qui était déjà en cours à l'époque?
Je suis en train de faire une relecture chronologique, n'est-ce pas? Et donc, de 60 à maintenant, la vie de la nation a été marquée par les assassinats politiques, on l'a dit, le fait des uns et des autres, par la mutinerie, les mutineries d'ailleurs, par les sécessions, par les rébellions, par les guerres et quelquefois par des explosions populaires. Et donc, aujourd'hui, c'est l'occasion de voir en quoi tous ces éléments positifs, négatifs, ont contribué au développement de la République. Bon, dire aujourd'hui que Mobutu a imposé un régime de terreur, je ne sais pas, parce qu'au début, il était applaudi. Et jusqu'en 1970, je crois, tout le monde parlait de Mobutu en bien. Et même à la veille de son départ, eh bien, pourquoi on a dépêché Bill Richardson d'ici? C'est parce que certains estimaient qu'il méritait, etc. Donc je ne veux pas juger Mobutu, je ne suis pas le juge de l'histoire, d'autant plus que j'étais non seulement son contemporain, mais son collaborateur, mais je laisse, n'est-ce pas, à l'histoire le soin de juger Mobutu. Parce que juger quelqu'un n'est pas seulement épingler ce qu'il a fait de mal, mais ce qu'il a fait de bien aussi, balancer et voir comment, dans l'évolution générale de notre pays, son action a pu s'incruster.
Alors, quelle était l'action du maréchal pendant cette période-là? Quelles étaient les grandes réalisations, n'est-ce pas, les temps forts, n'est-ce pas, du maréchal pendant la période 65-97, et quels étaient les défis, n'est-ce pas, qu'il devait régler?
De 65, c'était d'abord remettre le pays au travail. Souvenez-vous, retroussons les manches, parce que nous étions tellement préoccupés par des problèmes politiques, de ceci, il a dit non, maintenant, remettons-nous au travail. Deuxièmement, redonner la fierté aux Congolais. L'authenticité, manger dans des feuilles ou dans du feuillage, c'est aussi digne que manger dans des assiettes en porcelaine. Et on a vu ici des chefs d'État étrangers, français, manger dans nos feuillages. Donc ça, c'est un élément important. Le combat pour l'indépendance économique aussi, c'était un moment important, mais dont les résultats sont mitigés. Donc aujourd'hui, lorsque on parle de la période Mobutu, on pense certainement à la dignité du Congolais, à la conscience nationale et à l'unité nationale.
Voilà, la décennie 80 est caractérisée par la tenue des élections locales, municipales et présidentielles, mais la particularité c'est que ces élections sont ouvertes seulement aux personnes qui sont membres du parti impair, des partis État, et la particularité de la présidentielle à l'époque c'est qu'il y a un seul candidat. Comment vous expliquez qu'un régime, n'est-ce pas, qui était considéré comme étant un régime pro-occidental insère dans son système certains éléments du marxisme-léninisme, parce que voilà, là vous avez les partis uniques,
vous n'avez pas posé
de la personnalité.
Non, vous ne posez pas en termes historiques les choses, n'est-ce pas? Il y avait une démocratie autocratique, c'est-à-dire qui se jouait à un certain niveau. Vous pouviez tout faire, sauf briguer le poste de chef de l'État. Donc, les gens qui ont participé aux élections membres du bureau politique ou députés peuvent témoigner aujourd'hui que la compétition était atroce, n'est-ce pas? Et que, à part le fait qu'on ne pouvait pas toucher au poste du chef de l'État, eh bien, il y avait cette démocratie-là. Mais aujourd'hui, nous avons évolué. La démocratie a évolué grâce à cette expérience, à savoir la liberté pour postuler à tous les postes sauf à celui du chef de l'État, grâce à cette expérience où on excluait l'ensemble de la population à briguer un poste. Aujourd'hui, nous avons un régime démocratique où on peut briguer n'importe quel poste, et cela, c'est l'histoire. Nous devons, c'est peut-être grâce à ces erreurs ou à ces moments que nous décrions aujourd'hui du passé, que nous parvenons à avoir la vie que nous souhaitons aujourd'hui.
Merci. On devait avoir le professeur Emmanuel Kabongo, analyste et professeur en philosophie politique à l'Université pédagogique nationale UPN à Cible, mais on n'arrive pas à les joindre. À la place, nous avons Israël Moutala, il est journaliste et analyste politique et économique. Bonsoir Israël Moutala.
Bonsoir.
D'abord, un mot par rapport à la commémoration des 55 ans d'indépendance de la RDC.
C'est toujours un moment d'inter à la fois de
de responsabilité, mais surtout il y a le goût amer de qui remonte à la surface de la langue, dans la bouche, de gâchis. Parce que 55 ans d'indépendance, le Congo aujourd'hui, justement, se cherche encore. Mais c'est pas encore affirmé politiquement, mais c'est pas encore affirmé économiquement, n'a pas encore dégagé une vision commune de son devenir, n'a pas encore tiré toutes les leçons de son histoire mouvementée, de son histoire troublée. Et donc, nous avons encore un État, une nation, en manque de repères. Et cela s'illustre par des crises politiques à répétition. Et donc, pour moi, les 55 ans d'indépendance, l'histoire bégaye à certains égards. Et c'est dommage. Et donc, cette commémoration, la 55e, nous interpelle pour davantage bâtir de la cohésion nationale, davantage défendre notre intégrité nationale, davantage réunir les Congolais, les mettre ensemble, qu'ils aient une même vision sur l'essentiel. Et je pense que sur l'essentiel aujourd'hui, les Congolais ne sont pas tout à fait d'accord. Voilà un peu ma lecture par rapport à cela. Et donc, 55 ans d'indépendance, notre souveraineté est une souveraineté vraiment relative, qu'elle soit économique ou politique. Pourquoi ? Parce que les Congolais du Nord, de l'Est, du Centre, de l'Ouest, de la majorité, de l'opposition, et de la société civile, tous les Congolais, de toutes les origines, de toutes les confessions, n'ont pas encore dégagé cette matrice de valeurs communes qui doit servir de boussole par rapport par rapport au placement, par rapport à l'emplacement de la RDC dans les concerts de nations. Voilà.
Alors, lorsque vous parlez d'un manque de repères, là, vous rejoignez M. Valentin Moubaké, qui a dit que le problème que nous avons dans ces pays, c'est un problème des modèles politiques.
Mais, assurément, il y a un problème de modèle politique. Il y a vraiment un problème de modèle politique, parce que quel modèle politique ou qui incarne le modèle politique dans lequel tous les Congolais se reconnaissent? Les politiciens ou les politiques, les hommes d'État d'aujourd'hui, clament leur foi en la démocratie. Mais une démocratie parfois piégée, parfois biaisée. Donc ce n'est pas une adhésion totale à un système de valeurs, un système de gouvernance d'un État. Et c'est ça le problème. Tout le monde au Congo, majorité comme opposition, se déclare démocrate. Ça veut dire un système politique qu'on estime être le meilleur pour dégager, pour baliser les voies du développement. Mais chacun en donne le contenu qu'il arrange. Et c'est ça le problème. Personne, on n'est pas en mesure de transcender nos propres faiblesses, nos propres penchants pour élever les principes démocratiques au-dessus de nos personnes. Donc, il y a un problème de modèle politique. Et cela ne se pose pas qu'à la majorité, ou ne se pose pas qu'aux hommes d'État. Mais il se pose dans toute la classe politique, parce que vous regardez même au sein des partis politiques, de quelque bord que ce soit, le jeu démocratique, qui est l'idéal proclamé par tous, n'est pas l'apanage de ces partis-là. Mais le problème, j'en conviens, appartient plutôt aux hommes d'État. C'est l'homme d'État qui a une responsabilité historique, c'est lui qui est au pouvoir, qui a la responsabilité historique, justement, d'incarner les valeurs pour que tous se reconnaissent, de baliser, de tracer un chemin, pour que tous le suivent. Mais là, c'est important que ce chemin tracé puisse au moins être neutre, être impartial. Voilà un peu ma lecture de choses par rapport à notre indépendance et par rapport à l'absence d'un modèle politique.
Vous venez sous l'ambassadeur André Alain Atundu qui affirme que tous les dirigeants qui se sont succédés, n'est-ce pas, à la tête de ces pays ont eu un point commun, ils se sont tous battus pour l'intégrité territoriale et la défense de la patrie.
Mais le problème, vous prendrez n'importe quel charlatan. Vous prenez n'importe quel charlatan, il va proclamer sa foi, je vais protéger l'intégrité territoriale, je vais œuvrer pour la cohésion nationale, il va vous raconter toute une litanie des promesses, parce qu'il est lié par une constitution, mais croit-il vraiment ce qu'il dit? Travaille-t-il pour cet idéal? Là est la question. Tu prendrais n'importe qui, tu le mettrais à la tête de l'État congolais, il va vous dire, jusqu'à mon dernier souffle, jusqu'à mon sang, je défendrai l'intégrité territoriale, je défendrai la dignité des Congolais, je défendrai la cohésion nationale, je ne vais pas diviser les Congolais entre eux, je vais travailler à la grandeur du Congo. Tout le monde va faire cette profession de foi-là. Mais est-ce que dans les faits, c'est ça la question, dans les faits, les gens sont-ils sincères? Dans les faits, les gens travaillent-ils à cette grandeur? Voilà, c'est ça le hic. Donc, Mobutu, justement, qui était à un certain moment, qui incarnait la grandeur du Congo, son unité nationale, son intégrité territoriale. Mais bon, pour consolider, entre guillemets, ses idéaux là-bas, ses valeurs là-bas, il devait comprendre qu'à un moment, il fallait pas qu'il pratique la dictature. À un moment, il fallait qu'il ait une justice indépendante, qu'il ait une presse libre. Donc, quand vous travaillez pour ces idéaux là-bas, il faut absolument que les actes suivent. Or, pour plusieurs hommes politiques, à un moment, il y a un décalage entre ce qu'ils proclament et les actes qu'ils posent.
Merci, M. Valentin Moubaké. Il y a une question qui vous est adressée. Elle vient de Bukavu au sud Kivu.
Yann Basilaire de Bukavu au sud Kivu. À mon avis, le bilan est positif car certaines avancées, comme dans le secteur sécuritaire, par exemple, c'est signalé. Cependant, il faut noter que beaucoup reste encore à faire sur tous les plans sociaux, politiques, économiques pour parler d'une indépendance totale de la RDC, car malgré ce dernier acquis 55 ans après, le pays dépend de l'extérieur à un pourcentage acceptable pour trouver solution à plusieurs questions pourtant internes et nécessitant l'engagement du peuple congolais et ses dirigeants.
Monsieur Moubaké.
Oui, moi je ne parlerai pas d'un bilan positif. Hein. Votre correspondant de Bukavu va trop vite en besogne. Le Congo mérite mieux que ce qu'il est aujourd'hui. Et tout à l'heure on parlait de Mobutu. Mobutu a eu une chance inouïe de l'histoire de l'Afrique. Inouïe. Un monsieur qui trône à la tête d'un sous-continent où la population lui est docile. Je dis bien docile. Pendant 32 ans. Et malgré tout cela, malgré tous les avoirs, toutes les richesses potentielles que ce pays regorgeait, Mobutu a été incapable, je dis bien incapable.
Et donc Israël Moutala a raison de se poser la question de savoir si l'homme politique congolais travaille pour un idéal.
Non, il n'y a pas, il y a ceux qui se disent hommes politiques au Congo. Je t'ai mis d'abord ma phrase. Mobutu a été incapable de hisser le Congo à la place qui était la sienne. Incapable. En fait, c'est ça la différence entre ceux qui se disent politiques, les politiciens que nous sommes, le vulgus. Le vulgaire, l'homme commun est d'un homme d'État. Voilà la différence. Prenez le cas de Lumumba. Lumumba a refusé d'hypothéquer son pays. Ce sont les richesses du Congo qui ont causé le refus d'hypothéquer, de brader les richesses du Congo. Donc le Congo, c'est ce refus-là qui a donné la mort de Lumumba. Et Lumumba le savait. Combien sont-ils capables aujourd'hui dans ce pays, de se comporter comme ça? Un homme d'État, c'est celui qui est prêt à se sacrifier, mais que vive, que subsiste après lui son pays. Et il y en a très peu dans ce pays. Tout ce à quoi nous assistons aujourd'hui, des enrichissements sans cause, et même le non-respect des textes, croire qu'on est le nombril du monde. Après moi, il ne peut rien de bon ne peut subsister. Oh, laissez-moi continuer ce que j'ai commencé. Mais sinon, Louis XIV serait encore en France aujourd'hui vivant. Charlemagne serait encore là. Et j'en passe. Donc, c'est cette différence-là de comportement, ce que nous appelons à l'UDPS de culture politique. C'est ça. Savoir qu'on est un humain, savoir qu'on a des limites, et respecter les textes, les accords, les arrangements auxquels on a souscrit. En 60, ces braves pionniers, c'est pour ça que je dis, ceux-là sont excusables, se sont comportés mieux que tous vos professeurs d'université avec des diplômes. Et là, on a dit parmi les avancées, il y a formation exponentielle, c'est le thème que j'ai entendu des universités dans ce pays. Science sans conscience, c'est la ruine de l'âme. Et c'est ça, l'intellectuel congolais aujourd'hui.
Et donc, peut-on dire que après cette génération des pionniers de l'indépendance, n'est-ce pas, et tous les hommes politiques qui se sont succédés n'avaient pas cette culture politique dont vous parlez?
En tout cas, il y en a très peu. Mais regardez, Mobutu a travaillé avec tous les meilleurs professeurs d'université de ce pays. Dans les facultés, ce qu'ils professent, impeccable. Il faut les voir à côté de Mobutu. Il y a même ceux qui s'agenouillaient devant lui et qui oubliaient même la science. Et il paraît que cela continue jusqu'à aujourd'hui. Des gens qui se dédisent, des gens qui sont incapables d'affirmer leur position de scientifique.
Merci.
Parce qu'il y a quelques billets de banque, parce qu'il y a quelques postes ministériels, et j'en passe.
Merci, ambassadeur André Alain Tundu. Il y a une question pour vous qui vient de Kinshasa.
John Hilaire Lufuluabum, de Kinshasa. 55 ans après, rien n'est vrai au Congo. En politique, les mêmes sont toujours au pouvoir, malgré qu'ils disaient « la jeunesse est le Congo de demain ». Sur le plan socio-économique, nous sommes un pays très endetté, l'épargne n'existe pas, presque 4 sur 5 Congolais ne savent pas renouer les deux bouts du mois. Que dire de sans emploi qui passent des nuits blanches? Les Congolais vivent dans l'incertitude et la crainte de l'avenir. La RD Congo n'est pas indépendant politiquement.
Oui, monsieur l'ambassadeur.
Indéfendable politiquement.
Indépendant.
Bon, il faut toujours respecter les positions des uns et des autres parce qu'on ne sait pas c'est qui le motive. Est-ce qu'il a une perception exacte de la situation réelle du pays qui lui permette d'avoir un jugement global? Il devait se limiter à son point de vue. Eh bien, rien ne va au Congo. Nous sommes là en train de parcourir les 5 ans d'indépendance. Si vraiment, depuis 60 jusqu'à ce jour, rien n'allait au Congo, le Congo aurait disparu. Parce qu'il y a un principe d'anthropologie qui dit que la durée d'une organisation est un signe d'efficacité.
Alors, qu'est-ce qui marche à part l'intégrité du territoire et la défense de la patrie?
Mais qu'est-ce qui marche?
Voilà.
La sécurité, l'économie. On a glosé sur le rôle du cadre macroéconomique, etc. Oui, je suis d'accord que le cadre macroéconomique, ce n'est pas tout. Mais c'est la base. Si vous n'avez pas déjà la stabilité macroéconomique, eh bien, vous ne pouvez pas avancer plus loin. Et donc, ce qu'il faut aujourd'hui, ce n'est pas de condamner le cadre macroéconomique ou l'effort de stabilisation, mais c'est de donner une alternative, une voie alternative. Nous avons ceci, voilà où nous pensons que nous pouvons aller. Il ne s'agit pas de condamner. Aujourd'hui, je peux dire que globalement, le Congo va bien, parce qu'il a les moyens de faire face aux différents problèmes qui se posent. Que ce soit le problème politique. Prenons le problème politique. Oui, la richesse que constituent les hommes politiques et leur imagination, leurs idées fécondes, c'est une grande richesse. Et c'est ça qui empêche au Congo de tomber et de disparaître. Le Congo ne disparaîtra pas tant qu'il y aura ses enfants qui sont des patriotes, qui sont des nationalistes et qui ne se gênent pas de sacrifier leur personnalité, leur vie pour ce pays. Et à chaque moment, nous en avons. Merci. Des Lumumba, il y en a beaucoup. Je me souviens, le professeur Kambai Boacha a écrit un livre, Des Lumumba. Il y a beaucoup de Lumumba ici au Congo.
Merci.
Donc, l'avenir du Congo est garanti.
Du point de vue socio-économique, le bilan des 55 ans d'indépendance à la République démocratique du Congo n'est pas brillant, affirme Kabeya Chikuku, professeur d'économie et de développement dans les universités du pays et de l'Afrique. Ce professeur justifie ses propos par les éléments de la réalité des terrains dont il dispose. Ses propos sont recueillis par Berry Franklin Duchaka.
Sur le plan de la réalité du terrain au cours des 55 dernières années, il est indéniable, indiscutable que notre bilan n'est pas brillant. C'est le moins qu'on puisse dire. Sur le plan économique, de 1960 à 2015, le PIB par tête est réduit au tiers dans 55 années d'existence. Du point de vue de la production nationale, nous avons le produit national brut qui, lui, est réduit au quart. Ces deux indicateurs sont parlants, éloquents par eux-mêmes. On peut alors, pour les expliquer, donner tout simplement cinq faisceaux de causes. Premier faisceau, la diversification économique que nous avions en 1960, nous l'avons perdue et nous avons glissé vers la monoproduction. Deuxième chose, nous exploitons moins nos rentes naturelles qu'en 1960. Les infrastructures ont été quantitativement et qualitativement réduites. Les ressources humaines de notre pays sont gaspillées de trois manières essentielles, à peu près 80% au chômage et en sous-emploi. Les revenus qui sont payés aux Congolais ont baissé. Je crois que nous sommes autour de 25-26% de ce qu'ils étaient en 1960. Nous sommes exportateurs nets de main-d'œuvre. Maintenant, sociologiquement, je relève trois faits. La cellule familiale est en train d'éclater. Deuxièmement, il y a relâchement de la solidarité entre les hommes à l'intérieur des lignages. Et troisièmement, il y a l'élargissement de la plage sociale de misère.
Israël Moutala, sur le plan socio-économique depuis 60, le bilan n'est pas brillant selon le professeur Chikuku. Comment vous réagissez par rapport à son analyse?
Son analyse est pertinente. Donc, elle est imparable. Il a donné les chiffres. Nous vivons dans un pays, justement, où, quand je parlais tout à l'heure de gâchis. Le gâchis sur le plan politique, le gâchis sur le plan sécuritaire, le gâchis sur le plan économique. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas sur tous les plans. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas d'être dans la bonne voie ou dans la bonne direction. Une chose, c'est d'être dans la bonne voie ou dans la bonne direction, mais une autre chose, c'est d'avancer à un rythme soutenu, au rythme voulu. C'est ça le problème. Oui, aujourd'hui, on peut nous opposer la stabilité du cadre macroéconomique. Oui, aujourd'hui, on peut nous opposer la croissance, voilà. Mais la croissance, est-ce que c'est cette croissance est-elle suffisante pour réduire notre pauvreté? Quelles sont nos ambitions en matière de réduction de pauvreté? À quel rythme allons-nous réduire la pauvreté? Voilà, c'est une question fondamentale. Et comment allons-nous y parvenir, avec quels moyens? À ces questions fondamentales, on n'y a pas répondu. Parce que quand on vous dit que nous sommes loin du compte des années 60, ça veut dire que nous n'avons pas encore le niveau qu'on avait il y avait 55 ans. Voilà pourquoi j'ai parlé de gâchis.
Voilà, Israël Moutala, comment vous expliquez qu'en dépit des volontés exprimées, en dépit des efforts qui sont fournis, mais soit par les différents gouvernements, il n'y a toujours pas d'impact, n'est-ce pas, positif sur le social de la population?
Mais ça doit prendre beaucoup du temps. Pour éponger la misère, il faut créer de la richesse. Et la richesse, pour la créer, il faut de l'investissement. Il faut attirer des investissements et il faut améliorer les cadres des affaires. Donc il y a beaucoup de réformes courageuses et structurelles qui doivent être faites. Mais il y a aussi l'État. L'État qui doit jouer son rôle en termes d'abord de réduction de son train de vie. Chaque fois que le budget de l'État a cru, le train de vie de l'État aussi a cru. Donc il faut à un moment bloquer le train de vie de l'État pour dégager les ressources et les affecter dans des projets structurants. Et donc vous avez vu ici des gens qui ont raconté justement pour le besoin de la propagande que le Congo sera debout, le Congo sera émergent. Mais écoutez, ça ne résiste pas à une analyse sérieuse, parce que quand vous regardez la progression pour atteindre les objectifs, on est très loin du compte. Ça veut dire que notre premier objectif ici, c'est d'abord nous dire que atteignons d'abord le niveau de 60. Donc, quand vous atteignez le niveau de 60, alors là, vous pouvez quand même vous projeter de navire. Mais nous sommes d'abord incapables, et sur le plan des infrastructures, et sur le plan du niveau de vie, d'atteindre celui de 60, on ne peut pas quand même aujourd'hui prétendre que d'ici quelques années, une décennie et demie, voilà, atteindre l'émergence. Parce que le travail en amont n'a pas été fait. Et donc, aujourd'hui, nous sommes là par rapport à nous avons cette capacité là-bas à nous automentir, à nous bercer d'illusions. Mais il faut quand même un moment que nous soyons lucides et rigoureux par rapport à une analyse.
Israël
et, oui.
Il y a une question qui vous est posée, hein, elle vient de Goma au nord Kivu.
Oui.
Yuri Machadiro depuis Goma au nord Kivu. Selon moi, après l'indépendance, c'est plus pire qu'avant. Essayez de parcourir même les forêts et les savanes de la RDC, vous y trouverez les traces de ruines des entreprises que les colons nous ont laissées. Les Congolais ont ménagé des efforts considérables, non pour reconstruire, c'est-à-dire améliorer ce que les colons nous ont laissé, extorqué par le régime Mobutu, par la zaïanisation, mais surtout pour bouffer et détruire, c'est-à-dire saccager. À l'indépendance, le Congo était l'un des trois pays les plus riches de l'Afrique. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Je plaide pour la vraie recolonisation de la RDC du Congo. Peut-être que mes grands-parents pourront encore dormir dans la maison et aller au camp le matin paisiblement.
Oui, Israël Moutala, il plaide pour la recolonisation, n'est-ce pas, du Congo?
Non, je ne suis pas pour la recolonisation du Congo. Je sais qu'il y a des nostalgiques, effectivement. On a donné justement l'occasion, justement... aux nostalgiques de la colonisation, de regretter cette époque-là. Parce que on s'était dit, voilà, nous voulons accéder à l'indépendance, à la souveraineté nationale et internationale, parce que nous sommes un peuple mature, nous voulons prendre notre destin en main. Mais si prendre notre destin en main veut dire pauvreté, veut dire misère, ça veut dire nous n'avons pas les moyens d'éduquer nos enfants, nous n'avons pas les moyens de nous soigner, et tout ça. Bref, la liberté d'avoir une finalité. Mais cette liberté internationale que nous avons acquise, qu'en avons-nous fait? C'était pour, on a mis le désordre, on a mis le pays en moule, et c'est dommage. Et voilà pourquoi j'appelle les hommes politiques à être modestes, et à être humbles. Et je pense que cette humilité, cette modestie, va les amener à une lucidité de l'analyse, et plutôt, et ça peut peut-être les remettre en cause pour essayer de chercher un nouveau paradigme de développement.
Merci.
Parce que pour le moment, quand je regarde le Congo, il n'y a pas encore cette intelligence commune qui est derrière le mouvement d'ensemble qui accompagne la croissance et la création de richesses.
Merci, M. Valentin Mouvaké. Vous avez suivi l'ambassadeur Tundu qui a dit que globalement, le Congo va bien.
Bah, je ne sais pas de quel Congo parlait-il. Hein. Je ne sais pas si c'est de la RDC dont il s'agit, là où il vit et là où nous vivons tous. Vous savez, M. Atundu, je l'appelle Alain, à un certain niveau, nous les intellectuels, nous devons dire vrai. Je ne dis pas la vérité, je dis vrai. Quand on nous donne le PIB par tête d'habitant qui a chuté du tiers, quand on nous dit que le PNB, la production nationale, a chuté du quart, et vous voulez dire que le cadre macroéconomique a été stabilisé, prenons cette stabilisation-là.
Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire pour...
l'alternative. Voilà, l'alternative. Tous ces éléments que nous avions en 1960, c'était des résultats d'un modèle économique. Tout à l'heure, je vous ai parlé d'un modèle politique. On vous dit que nous avions une économie diversifiée, nous avions une agriculture de rente, nous avions des infrastructures. Tout cela n'existe plus. C'est-à-dire, il faut bâtir un modèle économique. Et pas le modèle actuel, qui est un modèle de pillage, tourné vers l'extérieur.
Merci.
Vous ne pouvez pas être premier producteur mondial du cobalt. Vous ne pouvez pas être quatrième producteur mondial du cuivre. Vous ne pouvez pas avoir de ressources pétrolières. Vous ne pouvez pas, et avoir 5 milliards de budget. Le problème donc du Congo, je me résume, c'est un problème de modèle politique. Ça veut dire un leadership crédible qui n'existe pas. Et un modèle économique, ça veut dire avoir une vision de ce que l'on veut du Congo sur le plan économique.
Merci, monsieur l'ambassadeur, votre conclusion.
La conclusion, c'est que il y a une confusion entre juger maintenant et voir l'évolution de la situation. Lorsque le professeur cite tous ces chiffres et aboutit à la conclusion que sur le plan socio-économique, le bilan est négatif, il présente mal le problème. Il devait nous présenter l'évolution. En 60, on était comme ça, en 70, comme ça, etc., etc., et des perspectives. Donc, c'est donner une mauvaise idée à l'opinion. Le journaliste, je crois, Israël, a parlé de la création de richesses. Non, le grand problème, ce n'est pas la création de richesses, c'est la distribution des richesses.
Merci.
Et c'est le même problème qui se pose ici qu'aux États-Unis, etc.
Merci, Israël Moutala, un mot en guise de conclusion.
Oui, oui, je suis d'accord. Ça veut dire que pour distribuer une richesse, il faut d'abord la créer. Or, jusque-là, on en a détruit le tiers en termes de PIB, le quart en termes de PNB. Et donc, on ne va pas distribuer la pauvreté. Et donc,
merci.
Pour qu'on distribue cette richesse là-bas, il faut d'abord...
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci et bon studio programme sur Radio Capi.